France Inter.
Écrivain, essayiste, académicienne et spécialiste du XVIIIe siècle, Chantal Thomas avait dans sa poche, lors de sa soutenance de thèse sur Sade dirigée par Roland Barthes, le billet d'avion qui allait l'emmener enseigner la littérature à New York au milieu des années 70. Elle raconte le début de cette vie américaine dans son ouvrage East Village Blues, paru en 2019, et publie le 3 mai prochain aux éditions du Seuil son journal d'Arizona, écrit il y a 42 ans. De janvier à juin 1982, cette héritière des libertins du XVIIIe siècle donne des cours sur Marivaux à l'université de Tucson, au milieu du désert, entre interrogations métaphysiques, flirts contrastés et plaisirs ingénus. Imaginez la brillante émancipée au regard turquoise et aux cheveux d'or, conduisant au milieu du décor de dessins animés Bip Bip et le Coyote, en pensant à Kerouac ou à Simenon qui séjourna 2 ans au même endroit. Dans un style aussi drôlatique qu'étincelant, elle raconte 6 mois dans cet état de la Sunbelt qu'elle ne choisit de rejoindre que par un hasard alphabétique. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Chantal Thomas.
Bonsoir Eva Bester.
Qu'est-ce qui vous a le plus préoccupé aujourd'hui ?
Oh bah, quelque chose de très très grave parce que j'ai eu un dégât des eaux dans ma chambre, alors
ça
m'a réellement préoccupé.
Oui, je comprends, c'est qui est le fautif ? Un voisin ?
C'est très désagréable.
Ah oui, vous savez d'où ça vient ?
Du toit.
Du toit. Vous êtes au dernier étage ?
Exactement.
Et vous avez trouvé une solution ?
Non. Peut-être je la trouverai demain. Quelqu'un va venir demain.
D'accord.
Oui. Bah, donc, pour la préoccupation, c'est...
Oui, ça a été ma réponse parfaite.
Ça faisait rêver du désert, d'ailleurs.
Oui. Vous fréquentez pas mal de gens du XVIIIe siècle, Sade, Casanova, Diderot, et depuis de nombreuses années, est-ce que vous trouvez que l'être humain du XXIe siècle diffère grandement de ses aïeux ?
Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est beaucoup en termes de communication. J'aime beaucoup aussi les salonnières du XVIIIe siècle, et je suis très sensible au fait qu'elles n'existaient, d'abord parce qu'elles n'avaient pas le droit de publier, mais aussi seulement, elles n'existaient que par la correspondance. Et tout ce temps pour qu'une lettre vous advienne, ça fait rêver.
Mais finalement, l'homme du XXIe siècle est le même que celui du XVIIIe dans ses préoccupations ?
Je pense qu'il y a un peu quelque chose de la science-fiction à se représenter le XVIIIe. Il y a une proximité physique du langage, toujours, une musique qui est toujours là, qui est mozartienne d'ailleurs souvent, mais sur la préoccupation, ne serait-ce que le rapport physique à soi-même, les vêtements. Par exemple, c'était tellement autre, la perruque. Si on imagine les fards que les hommes et les femmes se mettaient, l'impossibilité, le fait que personne ne savait nager.
Vous qui nagez énormément, qui avez écrit
des choses comme ça, vous voyez.
Personne ne savait nager au XVIIIe siècle.
Très, très peu. Uniquement les gens, c'était une chose populaire de nager. Je pense que spontanément, les enfants au bord de l'eau nageaient, mais dans la bonne société, entre guillemets, je suis sûre que non.
Est-ce que vous pensez, puisque vous vous êtes replongé dans vos journaux écrits il y a plus de 40 ans, que vous vous ressemblez, Chantal Thomas ?
À moi, oui, parce que c'est toujours... oui, complètement. Quand j'ai relu ces journaux, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est à quel point j'avais envie de retourner en Arizona. Vraiment, oui.
On va y revenir en détail.
Je ferme les yeux, nous imaginons là, nous deux, entrelacés, lèvres asséchées par l'amour de l'autre. Je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser? penser l'avenir, penser hier en guérir. Oh, je rêve, je rêve, je rêve. Oh oui, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve que tu es. Je rêve, oui, je rêve. Je sens dans ma poitrine mon cœur qui s'arrête. Je rêve et je fais mine de n'avoir pas senti passer cette réalité qu'endormie. Tu resteras, mais plus jamais à côté de moi. Je rêve, je rêve, oh, je rêve, oh oui, je rêve. Je ne fais que rêver, imaginer ton devenir. Si seulement t'avais laissé le temps de le construire. J'ai tant aimé t'aimer, je ne cesserai de le faire. Pour de la mort n'empêche pas de rêver. Alors je referme les yeux et je rêve. Je rêve, je rêve que tu es. Je rêve, oh oui, je rêve.
Zao de Sagazan, le morceau « Je rêve ».
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Chantal Thomas, en lisant tout ce qui vous concerne, on se rend compte que le mot « vadrouille » vous caractérise, et ce, dès l'enfance, puisque vous êtes née à Lyon, enfance et adolescence à Arcachon, Hippocagne et Cagne à Bordeaux, qui était une expérience épouvantable, mais vous avez découvert Sade. Et je fais un petit détour, d'ailleurs, on reviendra à la vadrouille après, puisque Sade, vous l'avez retrouvé avec Roland Barthes.
Oui.
Et comment? Pourquoi? Comment?
J'avais envie d'écrire ma thèse sur Sade, et... Je suis allée voir Roland Barthes, ne sachant pas que lui, à ce moment-là, était en train d'écrire sur Sade aussi. Et donc, j'ai fait... C'était très distancié, l'approche de Sade à cette époque. Et c'était très... moi, c'était sur l'opposition entre Justine et Juliette. Et je voyais Juliette comme celle qui écrit, et Justine comme celle qui lit, et donc qui reçoit.
Donc, passivité.
Des impressions,
et action.
Et au-delà.
Et qu'est-ce qui vous plaisait tant chez Sade? Puisque quand on ne l'a pas lu, on a plein d'idées sur Sade.
Ce qui me plaisait et ce qui continue de me plaire, c'est une langue extraordinaire. Et c'est une dimension de rêve. Dans les rêves, on s'autorise tout. Il n'y a absolument aucun interdit moral. Et Sade se place à un niveau non réaliste. Et c'est ça que beaucoup de lecteurs, lectrices, ont du mal à comprendre. C'est pas du tout... une description de ce qui a lieu et même et surtout pas de ce qui devrait avoir lieu. C'est un déroulement super poétique, mais sous forme d'épopée.
Alors c'est vrai qu'il y a plein de passages où Sade ne parle absolument pas de torture ou de sexualité, où il parle de liberté, c'est très intelligent, il y a un style absolument flamboyant. Mais que suscitait chez vous, Chantal Thomas, les scènes de sexe et de torture qu'on ne peut pas éviter chez Sade?
Mais je les lisais dans un esprit sadien, c'est-à-dire en continuité avec les scènes de philosophie. Et dans Sade, c'est des choses que je trouve très belles, quand Claire Will dit on philosophe et dans cet élan philosophique, on désire.
Vous avez des affinités avec le libertinage dans son sens premier, c'est-à-dire la liberté de mœurs, c'est surtout idéologique et morale. Est-ce que vous avez toujours été une affranchie ou est-ce que ça se travaille ?
Je ne me sens pas d'ailleurs affranchie. Je pense que j'ai eu une révélation quand j'étais enfant et où la plage était au bout de ma rue. Et je me vois seule avec la sensation des vagues et quelque chose de définitivement intact. Comme si quelque chose du monde, de sa négativité, de son agressivité, ne pouvait pas m'atteindre. C'est très curieux.
C'est-à-dire simplement un souvenir d'enfance qui vous donne une protection comme un bouclier ?
C'est une sorte de talisman. C'est un souvenir talisman.
Vous le convoquez régulièrement ?
Non, il m'advient. Je ne le dirige pas.
Ouais, c'est très beau. En 76, thèse en poche, vous partez aux États-Unis pour enseigner la littérature. D'abord, il y a New York que vous racontez dans East Village Blues.
Oui, en fait, je suis partie comme ça, pas pour enseigner la littérature. Je suis partie un mois pour me promener et ça m'a tellement plu que je suis revenue.
Et dans East Village Blues, vous parlez notamment des membres de la Beat Generation et vous avez cette réflexion qui est que vous possédez aujourd'hui, je vous cite, une compréhension plus sûre de ce qui était pour eux et qui depuis est apparu pour moi l'unique enjeu, garder l'intensité, ne pas perdre la note, la pousser jusqu'au bout des limites du souffle ou encore brûler. Est-ce que vous vous êtes beaucoup brûlé ?
Alors, là aussi je ne le sens pas vraiment, mais je pense que c'est une manière d'adhérer entièrement à l'instant. Plutôt que transgresser. Ou bien j'ai un rapport assez naturel et non réfléchi à des situations limites.
Vous avez toujours vécu de façon intense ?
Ben, je l'espère.
Et intensité va forcément de pair avec souffrance ?
Non, pas du tout. Je pense que dans notre mémoire s'inscrit plutôt la souffrance, mais de même qu'on pense que la guerre est un état plus intense que la paix, ce que je ne crois pas du tout. Je pense que la paix, comme le bonheur, c'est des états qui ont leur violence et qui impliquent aussi qu'on y adhère. Et il y a une décision, quelque part, d'être sur ce versant. Donc je pense que les intensités se répartissent peut-être différemment, mais moi je pense que c'est pas plus faible ni tiède.
Pour vous, ce n'était jamais une intensité destructrice ?
J'ai cherché à les éviter, je les connais et j'ai eu des tentations, mais et peut-être que la lecture de Sade faisait partie de ces tentations. Mais c'est bien de le savoir, comme ça on fait un peu attention.
Est-ce que vous vous ennuyez facilement ?
À jamais.
C'est vrai ?
Non. J'ai une sorte de... Je suis allergique à l'ennui et je ne l'éprouve pas.
Parce que vous avez une vie intérieure riche ?
Mais je pense que c'est aussi quelque chose... Il y a les enfants qui s'ennuient et les enfants qui ne s'ennuient pas. Et peut-être ça aussi, c'est quelque chose que je dois au bord de mer. C'est impossible pour moi de s'ennuyer au bord de l'eau. Et cet intérêt pour le... J'ai un grand intérêt pour le minuscule. J'aime les grands horizons, mais tout ce qui est le détail me ravit.
Donc quand on parle d'intensité, c'est pas forcément des choses spectaculaires ?
Oh ben pas du tout.
Quelle est la dernière chose intense que vous avez vécue ?
Et par exemple, quand je suis revenue, je suis rentrée il y a une semaine de New York, la première apparition du sol... Entre les nuages, j'ai trouvé ça bouleversant parce que les nuages étaient plus substantiels et donnaient plus l'impression qu'on pouvait marcher dessus que les sols. Et en fait, ça m'a fait penser à Tiepolo, qui est un de mes peintres préférés. Et c'est les peintures de Tiepolo, c'est des peintures où on marche sur les nuages. Et j'ai senti ça tout d'un coup.
I remember you well. In the Chelsea Hotel, you were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left.
Leonard Cohen, Chelsea Hotel, évoqué dans East Village Blues, dans lequel on découvre un New York marginal et une Chantal Thomas assez noceuse et qui fréquente les lieux investis par la Beat Generation et leurs héritiers. Est-ce que vous êtes toujours noceuse ?
Un peu moins. Surtout le Covid a bloqué beaucoup d'élan. Mais s'il y a des portes ouvertes et des musiques qui m'attirent, je dis bon, volontiers.
J'ai commencé par la vadrouille. Chantal Thomas, vous adorez voyager, vous l'écrivez d'ailleurs. Je crois même que c'était ma vocation, être emportée vers le but sans métier, débarquer dans une ville, dans un pays inconnu. Vous n'avez jamais eu de spleen dans la solitude de l'étranger ?
Alors, bon, j'ai voyagé seule, j'ai voyagé aussi avec des amis. J'aime les deux. Je suis à la fois très... Il y a une intensité dans la solitude et on ressent beaucoup plus vivement et avec une acuité particulière tout ce qui se passe. Et on est plus vulnérable. Et comme on est plus vulnérable, notre tête est beaucoup plus surexcitée. Mais j'aime aussi la complicité des voyages à deux. Voilà.
Vous publiez votre journal d'Arizona au Seuil, rédigé il y a 42 ans. À l'époque, vous étiez à New York, vous vouliez décider d'une destination d'enseignement. Et puis d'abord, c'était l'Alaska, puis ça n'a pas fonctionné. Et donc vous vous êtes dit, qu'est-ce qui vient après l'Arizona ?
Voilà, il y a une petite brochure qui s'appelle la brochure du MLA. Et sous Arizona, il y avait Alaska. Donc j'ai envoyé la même lettre, sans vraiment y croire. Et j'ai été acceptée. Et donc j'étais très contente. Et puis je ne me suis plus du tout préoccupée de cette histoire d'Arizona. Et quand est venue la rentrée, c'était en janvier 82, déjà le vol, encore une fois, parce que j'adore prendre des avions, le vol déjà m'a sidérée. Tellement le corps même de l'Amérique, et ce qui est d'ailleurs le sujet de Sur la route de Kerouac, et quelque chose de changeant et de magnifique. Et j'avais déjà traversé l'Amérique deux fois aller-retour. Mais de le voir d'avion, et surtout quand on commence à voir le désert, la couleur du désert, c'est vraiment splendide. Dans les roses beiges.
En exergue, vous mettez cet extrait de la vie de Marianne de Marivaux. J'allais, j'ouvrais les yeux, j'étais étonnée, et voilà tout. C'est vous, Chantal Thomas.
Mais cette phrase, elle m'a... Alors je l'ai trouvée au moment de publier le livre, mais... Quand j'arrive en Arizona à ce moment-là, je dois faire un cours sur Marivaux. J'ai choisi La vie de Marianne et je suis captivée par ce livre. Et au lieu de faire écran au monde extérieur, je suis au contraire portée par elle. Et tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre le 18e et maintenant ? Ce que je comprends aussi très crûment, c'est à quel point les femmes n'avaient rien d'autre que la coquetterie. Et ça m'a bouleversée et je continue de lire La vie de Marianne, et Marianne est avec moi tout au long.
Landscape can take your sorrows away, you know. It absorbs your neuroticisms. You know, how could you be unhappy looking at this, you know.
Les paysages peuvent absorber votre tristesse et vos névroses, dit l'écrivain Jim Harrison dans Seule la Terre est éternelle, documentaire de François Bunel et Adrien Solan sorti en 2020. Chantal Thomas, c'est la force de votre émotion en voyant ce film qui vous a révélé combien ce qui n'avait été en apparence qu'un banal séjour universitaire avait compté pour vous.
Ah oui, j'ai été bouleversée par ce film. J'ai été bouleversée d'abord par le souffle haletant et en accord avec le monde qui décrit de Jim Harrison, et tout d'un coup j'ai senti cette immensité et combien il ne faisait qu'un avec ce monde qui était aussi celui des Indiens. Et il y a une dimension de Jim Harrison proche de, des arbres, qui sait nommer les oiseaux, qui est dans la délicatesse et qui est un peu en différente de l'idée du chasseur machiste. Ça m'a beaucoup ému du poète et aussi le fait qu'il ait une seconde maison en Patagonie, Arizona, et la manière dont il est mort, je crois que c'est un an après ce film, en train d'écrire un poème.
C'est très beau.
Ah oui.
Vous êtes replongé dans ce journal écrit il y a 42 ans. Est-ce que, en vous relisant, vous avez éprouvé de la nostalgie ou de la tendresse pour vous, de l'embarras parfois ?
Alors, j'ai pas du tout éprouvé d'embarras. J'ai aimé me repenser en bicyclette et surtout la nouveauté. J'ai aimé cette sensation de nouveauté que j'avais éprouvée si fort, comme Marianne. Et aussi que je suis restée amie avec ma meilleure amie en Arizona, donc elle a relu le texte aussi, et c'était comme si on continuait de vivre au présent. Vous voyez, si j'étais partie en laissant personne, je crois pas que j'aurais senti ça. Mais dans la mesure où on est resté aussi amis qu'à ce moment-là, comme quand elle m'aidait à acheter une voiture, cette persistance de l'amitié fait que ce livre, puisque maintenant c'est un livre, je peux le lire au présent.
Il y a beaucoup de documents d'époque reproduits, des photos, des cartes, de votre carte du campus. Est-ce que vous archivez beaucoup en général ou est-ce que vous jetez ?
Non, je suis à la fois très désordonnée, mais je garde particulièrement tout ce qui touche aux États-Unis, tout ce qui touche à mon séjour à New York et en Arizona et mes carnets. Je garde tous les carnets. Mais oui, j'aime garder des choses. Ou des tickets, un ticket de métro ancien, des choses comme ça.
Votre style est incroyablement poétique et brillant, et on se dit en vous lisant que vous saviez que vous seriez publié. Je cite un exemple, parce que vous m'avez dit juste avant de commencer l'émission que non, vraiment, vous ne vous imaginiez pas cela. Vous êtes dans un motel un peu miteux, il y a une piscine, et vous dites « la piscine en forme de haricot, lisse et opaque, comme un suicide réussi ». Mais c'est un style littéraire flamboyant.
C'est curieux, hein. Je l'ai écrit comme ça. C'était le premier motel où j'ai dormi. Et ça m'est advenu comme ça.
Et donc vos journaux sont rédigés dans ce style flamboyant. Il n'y a jamais de moment où vous êtes médiocre, Chantal Thomas. Vous êtes ennuyeuse, vous avez une vie intime.
Mais ce journal, il est particulier au sens où j'étais libre. J'étais complètement libre. C'était ce que j'écrivais au fur et à mesure chaque jour. Mais j'y mettais tout le talent dont je peux disposer. Et aussi, c'était un moment d'extrême attention au monde, qui était si neuf pour moi, parce que je suis complètement aquatique. Et un monde de sable et de soleil brûlant, ça m'a interloqué.
Vous n'avez rien modifié ?
Alors j'ai changé, si j'ai ajouté la rencontre justement entre Kerouac et Simenon. qui n'était pas dans mon... J'avais été stupéfaite d'apprendre que Simenon avait séjourné 2 ans, presque 3 ans, et écrit 10 livres pendant son séjour.
Vous semblez tout voir de façon romanesque.
En plus, quand on est en disposition de voyage, c'est ça qui se passe. Donc, je pense qu'une des clés de l'existence, en tout cas du plaisir de vivre, c'est de se vivre en voyageuse. Et les jours qui sont bien sont des jours comme ça. Les jours où on est sédentaire et dans l'habitude, quelque chose s'éteint en nous, non ?
Tout à l'heure, justement, je rebondis à ce que vous venez de dire. Vous avez dit que vous étiez libre, comme s'il y avait des périodes de votre vie où vous ne l'étiez pas. Qu'est-ce qui différencie cette période en Arizona où vous aviez quand même des choses à accomplir ?
Oui, mais il y a quelque chose de très survoltant d'arriver dans un lieu d'abord où on ne connaît personne. Et où tout va devenir une aventure. Et il faut aussi se représenter qu'à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone portable. Une fois qu'on est parti, on est parti. On envoie des cartes postales par moment, justement les cartes à ma mère et à ma grand-mère, et je suis très touchée qu'elles soient reproduites. Mais on est parti. Et donc, il n'y a pas ce sentiment actuel d'être... Le monde vous suit partout. Et là... C'était coupé, les liens étaient coupés. Donc ça s'ajoutait, ce sentiment d'être détaché, littéralement détaché, dans un espace où l'air déjà est désaltérant. Simenon le note dans un de ses romans d'ailleurs, et c'est tellement vrai. En soi, c'est une ivresse. Et je pense que l'inhabituel, la singularité d'une situation exacerbe le sentiment de liberté.
And a gas station to the right at the next turn. Please don't turn on the music. I need to empty my head. Need some road noise to reflect on everything she just said. I am not mad, I'm just sad. I've been paying attention, so you've got a point, my bad. Just give it some rest, give it some time. Well, in the end, there's nothing that fucks you harder than time. Did you give it your all? Give it your all. Did I give it my all? Give it my all. So when two and two now makes five, then I wanna count again. Right from the start, till it makes sense in the end. On to the next town, and don't look behind. But watch out, it's just a crash waiting to happen.
Jay Bernard, Taxi.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Chantal Thomas, dans l'introduction de votre journal d'Arizona, vous employez un terme que j'aime beaucoup à propos d'un chercheur américain, libido sciendi, la pulsion de savoir, le désir de connaître. Vous l'avez, j'imagine.
Oui.
Oui.
Oui, je l'ai.
Qu'aimeriez-vous apprendre aujourd'hui?
J'aimerais, là tout de suite, je suis passionnée par la princesse Palatine, donc j'aimerais tout savoir sur elle, et je suis très limitée en allemand, donc j'ai un peu appris l'allemand quand j'écrivais sur Thomas Bernhardt, mais j'aimerais reprendre l'allemand et aller au lieu où elle a vécu, pouvoir déchiffrer un peu les journaux d'époque parlant d'elle, voilà.
Dans votre journal, on apprend quand vous cohabitez deux professeurs, enfin à l'époque, le professeur Thomas et le professeur sourd d'oreille, qui vous rend souvent service quand vous ne voulez pas entendre. Vous faites souvent appel à ce dernier encore ?
Oui, il est très sympathique et on a des liens assez proches. Et je dois dire qu'il y a, je parlais tout à l'heure de mon amitié avec cette femme en Arizona, mais lui, je l'ai découvert beaucoup plus tôt, je l'ai découvert à l'école. Et depuis, il me guide, c'est pas moi qui fais appel à lui, je le suis.
In the death car, we're alive. In the death car.
Death Car d'Iggy Pop sur la bande originale d'Arizona Dream d'Emir Kusturica. À Tucson, Arizona, en 82, Chantal Thomas, vous avez la Pléiade de Marivaux que vous lisez lors de votre première nuit dans un motel, tandis que de l'autre côté de la cloison résonnent des ébats sexuels entre deux hommes qui tournent à la violence extrême. Vous décrivez ça, mais vous ne décrivez pas vos émotions. Vous décrivez aussi qu'au début, vous vous baladez en faisant de l'autostop, on vous explique que c'est dangereux et qu'on pourrait vous tuer. Vous semblez peu sujette à l'inquiétude.
Mais c'est-à-dire, j'ai pas d'imagination de, j'ai très peu d'imagination de ce qui peut advenir. Je suis très dans ce qui m'entoure, dans l'instant, dans le détail, comme je le disais tout à l'heure. Et la vision catastrophe globale, et qui peut m'anéantir, je ne l'ai pas.
Et vous dites qu'il peut m'anéantir, donc ça veut dire que vous avez tout de même l'intuition, vous l'avez connue, cette idée?
Mais cette vision, précisément, je ne l'ai pas. Je sais que ça peut se produire, mais elle n'est pas intériorisée. C'est de même, j'ai pas. J'ai comme une. Bon, j'adore les haïkus et la littérature japonaise parce que j'ai reconnu une sorte de vision myope du monde aussi. Quelque chose où on colle, où ce merveilleux tableau de Bonnard où on voit un enfant qui a presque la tête dans le sable en train de jouer. C'est quelque chose de très, très immédiat et dans la proximité.
Je me demande si vous vous êtes protégé du monde extérieur pour atteindre cette sagesse ou cette joie de vivre. Chantal Thomas, vous vous demandez ceci dans votre journal d'Arizona, jusqu'où lire peut-il nous protéger du dehors, mais aussi comment lire nous ouvre le monde. Est-ce que vous avez des pistes?
Oui. Non, mais en relisant ce journal, ce que j'ai vraiment aimé et où je me suis sentie complètement en continuité, c'est que c'est un éloge de la lecture. Et je ne me rendais pas compte en l'écrivant à quel point la lecture nous porte et fait qu'on peut être installé dans une chambre à côté de vous, deux types sont en train quasiment de s'entretuer, mais on a envie de continuer le livre.
Et alors, entre les cocos, justement, si on parle de littérature, entre les cocos des bas-fonds comme Kerouac et Simenon, on trouve le comte de Saint-Germain, rival de Casanova, son thé de longue vie, son élixir vital composé d'aromates et d'or, et sa recette pour grossir les diamants. Et alors justement, moi j'ai rêvé grâce à vous, Chantal Thomas, j'aimerais savoir ce que c'est que son thé de longue vie.
Alors ça, il le vendait à prix d'or.
J'imagine.
Et bon, il y a quelque chose sur le XVIIIe siècle qui est très très charmant et très, très envoûtant aussi, c'est à quel point c'est un siècle d'aventuriers, parce qu'on pense toujours les encyclopédistes, oui, mais il y avait aussi tous ces charlatans qui inventaient des élixirs, des recettes d'éternité, et qui faisaient le tour des cours et se faufilaient auprès des souverains et offraient leurs services.
Ils ont changé de forme, mais ils existent toujours aujourd'hui. Ils ont changé de média.
C'est sûr, c'est sûr. Mais les souverains aussi étaient à la fois plus isolés, peut-être, bien sûr, mais aussi beaucoup plus tentés par le savoir. Quand on pense Catherine de Russie faisant venir Diderot, par exemple, ou Frédéric faisant venir Voltaire pour avoir des cours de poésie. Ça ne se reproduit pas aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, c'est triste, mais c'est magnifique de penser à ça. On fait l'éloge de la littérature, du savoir. Et justement, Chantal Thomas, ce qui frappe aussi quand on lit ce journal, c'est que votre vie amoureuse, bien qu'elle vous préoccupe, semble passer bien après la littérature, ce qui est le comble du chic.
Alors bon, ce journal... Donc il est écrit comme ça, j'écrivais continuellement ce journal, et ce livre se déroule sur le fond d'une vraie question qui est: est-ce que je veux vivre en Arizona pour toujours avec l'homme que je voyais à ce moment-là, mais qui vivait à New York, ou bien est-ce que je veux recommencer autre chose et éventuellement revenir en France pour la langue française ? Et donc, sur le fond de ces notations impressionnistes et tantôt délicieuses, tantôt effarées, il y a une interrogation qui finit par s'évaporer dans l'air chaud du désert, c'est vrai.
Vous parlez à un moment de la difficulté, de l'antipathie que vous avez à vous laisser aimer. Est-ce que vous avez fait des progrès depuis ?
L'antipathie,
à vous laisser aimer ?
Oui, moi j'ai fait d'énormes progrès.
Ah, oui. On peut vous aimer maintenant sans problème.
Oui, oui. Mais c'était une antipathie très grave et quand j'étais adolescente, ça m'a séparée de de mes camarades, parce qu'il y a un désir, je crois, adolescent, d'être aimé très fort. Et je ressentais au contraire une incroyable méfiance en me disant si je m'abandonne, je vais perdre quelque chose. C'est-à-dire aussi l'envie de rire, parce qu'il y a une gravité des premiers amours.
Vous l'avez ressenti cette gravité parce qu'il semble qu'il n'y ait pas de gravité chez vous.
Bah, non seulement j'ai ressenti, mais j'ai fini par l'accepter et par la partager. Mais j'ai toujours en espérant que ça allait pas être comme tout un pan entier de mon rapport ou de mon regard sur le monde qui s'effondre.
Dans les gens que vous avez admirés, que vous avez pris pour modèle, il y a Simone de Beauvoir, il y a Nicolas Bouvier et puis il y a Alice d'Alice au Pays des Merveilles. À quoi ressembliez-vous, enfant ?
Pas Nicolas Bouvier, ça c'est sûr. Mais j'avais quelque chose de studieux que j'ai toujours de Simone de Beauvoir. J'admire vraiment la manière dont elle... Sa clarté de démarche, même physiquement c'est visible. Elle est extraordinairement bien dessinée. Et Alice au Pays des Merveilles, elle m'habite, c'est sûr. Aussi ce sentiment de l'incroyable absurdité du monde. Et que la logique et même nos comportements très bien adaptés, ils sont posés comme ça sur des cordes très très fines qui maintiennent un niveau de vraisemblance. Mais en réalité, comme dans les rêves, en réalité, il y a un illogisme profond.
Et vous semblez vous en accommoder ?
Oui, mais c'est aussi quelque chose qui m'a frappée en relisant ce journal, c'est que je raconte les rêves au même niveau que le quotidien.
Vous les notez toujours, vos rêves ?
Et ça, oui, depuis très très longtemps. Il y a des années entières où je n'ai presque que les rêves. Et quand je les relis, ça me donne la tonalité, ça me donne la musique de ce que je vivais. Mais pas les circonstances, les rencontres, pas nécessairement. Mais en tous les cas, la note.
Qu'est-ce qu'on entend, Chantal Thomas ?
On entend un chant de guerre au pi, enregistré il y a quelques années, et que j'ai eu envie de faire écouter parce que j'ai un de mes livres cultes, c'est Soleil au pi.
Que vous avez apporté ?
Que j'ai apporté, parce que c'est un livre magnifique, écrit par Talayesva, un indien au pi, donc qui était né en 1890 et qui est mort il n'y a pas si longtemps, en 1976, et qui, en un premier temps, est arraché à sa tribu et à qui on inflige une éducation américaine, anglaise, mais qui, et c'est ça que j'aime, qui non seulement l'accepte, mais se révèle brillant, et qui, sous le coup d'une maladie, il manque de mourir, et un rêve, dans un rêve, il se voit en train de mourir, guidé par son esprit titulaire, et il arrive à la maison des morts à l'instant juste avant de mourir, et il est toujours à l'hôpital, et il décide de retourner à sa tribu, et il appartient au clan du soleil, et il va assumer le rôle de chef du clan du soleil, et quand il a la quarantaine ou la cinquantaine, il y a une très belle préface de Lévi-Strauss, il accepte la proposition d'un professeur d'université de raconter sa vie, de tenir une sorte de journal de son existence, et par là, il essaie de sauver, tout en sachant que c'est une cause perdue, c'est ça qui est bouleversant, de sauver la culture Hopi, et il y a une réserve Hopi pas très loin de Flagstaff, où je ne suis pas allée, bien entendu, enfin, j'aurais pu, mais je préfère lire Soleil Hopi, parce que c'est à la fois très détaillé, et dans un esprit... religieux, mais pour la sauvegarde d'une culture. Et c'est très émouvant. Et donc, quand on l'écoute, c'est une manière de poursuivre son œuvre.
Vous avez choisi aussi Janis Joplin, Get It While You Can.
Oui.
On va l'écouter. Vous voulez dire un mot dessus avant ?
Oui, alors Janis Joplin, d'abord, c'est elle dont il est question dans Chelsea Hotel de Cohen, puisque c'est là où ils se sont rencontrés, où ils ont fait l'amour. Et Et quand on pense l'Ouest, on voit tout de suite, je trouve, la célèbre photo de Janis Joplin sur sa moto descendant vers la Californie, non? Et puis la voix de Janis Joplin, c'est quand même tout ce qu'on disait sur l'intensité. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin.
Non. Janis Joplin, Get It While You Can dans Grand Canal sur France Inter. Chantal Thomas, lors de votre séjour en Arizona en 82, vous découvrez assez vite aussi que vous êtes dans l'empire du bien. Par exemple, dans la classe où vous enseignez, vous choisissez de parler du poème Le mauvais vitrier de Baudelaire et la méchanceté du texte ne passe pas. Alors je me dis, comment vous l'avez vécu, vous, qui avez un humour noir? Par exemple, à un moment, vous imaginez un stripteaseur qui mordrait une future mariée, ça vous amuse beaucoup? Ça ne va pas du tout avec le paysage?
Non, ça n'allait pas avec le paysage et j'ai découvert aussi le striptease mâle.
Et alors, qu'en pensez-vous ?
Masculin, et j'étais assez sidérée parce que j'ai découvert aussi à quel point vouloir singer ou reproduire des divertissements masculins, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça m'a paru totalement faux. Mais c'était curieux et c'était une vraie expérience.
Quelle est la différence d'état d'esprit principale entre la France et les États-Unis à l'époque et aujourd'hui ? Selon vous,
bon, il y a quelque chose que je signale dans la préface que j'ai ajoutée. Il faut se souvenir qu'à cette époque, François Mitterrand vient d'être élu, très exactement à cette époque. Et aux États-Unis, Ronald Reagan, exactement au même moment, vous voyez.
Oui.
Donc c'est vraiment deux mondes et deux rapports à la politique, puisque Mitterrand, c'était vraiment une obsession depuis longtemps, très réfléchie, et d'orientation socialiste. Et Reagan, c'est vraiment l'homme du spectacle. Et juste avant de se présenter comme gouverneur de Californie, je pense, il a toute une série aux États-Unis sur les héros du Far West. Et donc, arrivé en Arizona, sous Reagan, c'était une manière d'entrer dans un film grand spectacle qui reproduisait à l'infini la conquête de l'Ouest.
Tout à l'heure, vous avez dit que dans ce journal, ce que vous lisiez le plus, finalement, c'était l'importance de la lecture. Et puis, il y a plusieurs notes de rappel à vous-même où vous écrivez « Revoir Rio, bravo ». Bon, là, c'est un film. Lire la correspondance de Rimbaud. Est-ce que vous opérez toujours de façon similaire? Quelle est la dernière note que vous vous êtes adressée?
Je m'adresse, non, je m'adresse pas, je m'adresse plus de notes. Je sais par exemple que Sade, quand il s'adressait des notes, il se vouvoyait.
Ah, c'est très élégant.
C'est joli, non?
Oui.
Maintenant, peut-être je me suis incroyablement rapprochée de moi, mais je m'exhorte plus, en tous les cas pas par écrit.
Vous racontez un moment une incursion au Mexique et en fait dans ce journal, Chantal Thomas, vous êtes Nicolas Bouvier, vous êtes Beauvoir, vous êtes Sade en même temps et c'est très plaisant parce que le sexe n'a aucune importance, ça pourrait être le journal d'un homme dans les années 80.
Ah bon?
Oui, oui. Il y a une liberté totale qu'on lit très peu chez les femmes.
Mais parce que c'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi ces derniers temps, surtout par rapport au mouvement MeToo et à la condamnation très forte et que je trouve qui peut être très justifiée d'auteurs libertins. Je pense qu'il faut, quand on est en face d'un livre, je pense à Casanova, où moi je me suis projetée du côté de Casanova. Et je trouve que comme au théâtre, en tant que lectrice, rien ne nous oblige à nous identifier et à nous projeter dans une situation réaliste par rapport à notre sexe, à nos cheveux, à notre âge. Rien. On peut être très bien un petit garçon de 3 ans ou un vieillard de 98 ans. La lecture, c'est ça. Et pourquoi ne pas choisir cette liberté ? Moi, j'aime la manière dont Casanova écrit « Je suis partie la joie au cœur sans rien regretter ». J'aime cette phrase. Elle a rien d'opprimant pour qui que ce soit. Si un jour on part et on l'entend comme une petite musique dans sa tête, eh bien, tant mieux.
Et vous êtes Casanova dans ce journal. Je ne dévoile pas pourquoi, les auditeurs le découvriront. Mais j'en reviens aux émotions, Chantal Thomas, dans un article de Libération de 2004. Vous faites l'éloge des larmes. Je ne vais pas le lire en entier, mais juste ces phrases. Moi, je me suis constituée pour être quelqu'un qui ne sait pas pleurer. Et une fois que j'ai réussi, j'ai pensé, c'est une maîtrise épouvantable. Je me suis mise dans un carcan et privée de grandes possibilités d'abandon.
Oui, et c'est vrai, après les adieux à la reine, et j'avais eu le prix Fémina et j'étais très, 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 très joyeuse et excitée par ça. Je suis partie à Princeton, j'ai fait un cours et j'ai commencé à écrire souffrir. Et j'ai eu peur, vous voyez, aussi que de devenir une sorte d'avoir un automatisme du côté du bonheur, de la réussite, et que toute cette part de souffrance qui est en moi, comme en chacun, soit comme colmatée. Et je me suis dit, dans ce cas-là, elle va bondir comme la figure sous le tapis et un jour m'étrangler.
Merci beaucoup, Chantal Thomas. Votre ouvrage Journal d'Arizona paraîtra le 3 mai aux éditions du Seuil. Et à signaler aussi, vous signez la préface du recueil J'ose m'exprimer ainsi de Thierry Clermont, paru le 17 avril dernier. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Louise Lemoine, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, technique Jérôme Ragano et Enzo d'Hospital. Et dans un instant, Very Good Trip par Mishka Assayas. Cher Mishka, quel est le programme?
Bonsoir Eva. Le programme, c'est, comment résumer? Il y aura toute une palette de parfums musicaux, plutôt du sud. On voyagera d'Haïti via la Louisiane, donc il y a un lien avec ce que vous venez d'évoquer, jusqu'au Texas de Beyoncé.
Et voilà, bien, je mets mon chapeau.
Oui, j'espère. À tout de suite.